Louis Aymon, le clown. Ceci est l'histoire invraisemblable et véridique qui me fut contée dans un boarding house de Russell Square par une Irlandaise aux lèvres peintes dont je tairai le nom. C'était une fort jeune et fort jolie fille qui, connaissant le prix de l'indépendance, avait pendant plusieurs années promené sur le continent seule sa coiffure 1830, sa peau douce et ses clairs yeux sans pensée. Un soir, elle descendit de sa chambre, tenant en main une boîte à gants mauve pâle qui sentait l'héliotrope, et la renversa sur ses genoux. Il en sortit quelques paquets de lettres, liés avec des faveurs de nuances tendres et des photographies de tout format. Elle les étala dans le pli de sa jupe et leur sourit à toutes l'une après l'autre, car c'étaient les portraits de jeunes hommes de toutes nations et de tous âges qu'il avait aimés. Il n'y avait pas de tragédie dans ces figures-là, rien de sombre ni de violent. Anglais, français, allemand ou suédois avaient, devant l'objectif, exhibé les mêmes coiffures soignées et les mêmes redingotes solennelles pour la jolie fille aux fleurs discrets. Ils avaient dû l'aimer gentiment, sans mauvaise humeur et sans désespoir, d'une petite passion honnête et douce. Elle les récompensait en leur gardant à tous le même souvenir plaisant et attendri et le même sourire. 5 ou 6 races y étaient représentées, mais le joyau de la collection et le plus cher à son cœur était un Français. Sur ses innombrables talents, le charme de ses manières, sa voix exquise, sa virtuosité de pianiste et de valseur, elle épuisait ses épithètes laudatives. Et puis c'était un conte, un vrai conte. Le conte offrait aux yeux de 3/4 une jolie figure molle, aux yeux de bébé caressants, rehaussés de moustaches intrépides. Il se tenait très raide, mince, étroit et bien vêtu, et regardait devant lui avec un léger sourire. Elle avait entamé, devant un auditoire complaisant mais jaloux, le chapitre de ses grâces, et portait au nu notre nation, qui produit de si jolis garçons et de si bonnes manières. Mais, ingrat, j'avais cessé de prêter oreille et regardé un autre portrait. Celui-là n'était certes pas d'un Français. La figure glabre aux traits durs, d'expression simple et violente, la mâchoire de dogue, la tête petite sur un cou puissant, clamait l'anglo-saxon de race pure. Pourtant, des yeux étranges, troublés et anxieux, mettaient une note de faiblesse dans ce masque primitif. Mais la bouche surtout m'avait frappé. C'était une large bouche de dessin très pur, mais qui semblait avoir perdu l'habitude du repos. Une bouche aux lèvres tendues, aux coins abaissés, dont on lui dit qu'elle grimaçait de tristesse après avoir trop ri. Une bouche comme on en voit. Mais où donc avais-je vu cette bouche-là? Je questionnais la jeune Irlandaise, qui interrompit son panégyrique pour me répondre quelques paroles vagues d'un air distrait. Le souvenir de cette figure, évidemment, ne pouvait ni la flatter ni l'attendrir. J'insistais, et elle n'ajouta rien. Mais la mémoire me revint tout à coup. J'avais déjà vu des bouches semblables ricaner dans des visages blanchis de farine, sous les ampoules électriques ou les quinquets fumeux, quand l'impeccable gentleman en bottes molles demande en faisant claquer un fouet dédaigneux. « Alors, monsieur le clown, voulez-vous faire venir l'imbécile avec moi ?» J'avais déjà vu cette grimace-là tordre une bouche douloureuse quand monsieur le clown, écartant des deux mains comme un voile sa large culotte de soie aux fleurs bizarres, se fait fouailler pour faire rire la foule et rit avec elle sans desserrer les dents ses lèvres sanglantes d'un air d'indéfinissable mépris. Je sentis donc qu'il y avait une histoire, et je finis par l'obtenir. Mais ce fut si long, car la conteuse la considérait comme vulgaire et sans intérêt, et si confus, car elle n'avait qu'à moitié compris, que je préfère prendre cette histoire à mon compte, puisqu'aussi bien il faudrait de toute façon que je mente un peu. Je vais donc vous la dire telle que je l'ai comprise, sinon telle qu'elle est arrivée. Elle se passa à Londres, dans un de ces boarding houses où vivent les sans-logis et les sans-famille, les voyageurs de ressources minces et les commis de banque de la cité. L'héroïne de cette aventure y avait élu domicile depuis quelques mois et coulait des jours paisibles. Quand survint le comte dont les yeux doux, les fières moustaches lui prirent le cœur. Ce fut un flirt désespéré qui se déroula soir après soir dans les trois salons aux meubles miteux. Lui, tantôt, s'asseyait au piano et ténorisait, avec un sentiment infini, chansonnettes et romances, tantôt près d'elle, achevait de la conquérir au charme de sa personne soignée et de ses manières polies et caressantes. Un jour, leur tête-à-tête fut quelque peu troublé par la présence d'un nouveau venu, large garçon, très bien habillé, sobre de mouvements et de paroles, qui paraissait prendre son plaisir à regarder les choses autour de lui sans jamais s'y mêler. Mais ils se firent vite à son immobilité silencieuse et finirent par l'oublier tout à fait. Malheureusement, le sort voulut que, à force de voir sourire devant lui cette jeune fille de sa race, fardée et naïve, Joey Chins, clown, se prit à l'aimer. Comment il l'aima et combien, c'est ce que lui seul aurait pu dire. Mais je sais au moins une chose, c'est qu'il essaya de l'amener à lui. Il alla s'asseoir près d'elle, lui aussi, dans les longues soirées d'hiver, quand le froid brouillard remplit les rues, et lui conta des histoires merveilleuses. Aventures singulières survenues dans les recoins du monde où il avait passé, peinture d'îles perdues où, entre les collines et la mer, la vie semble s'arrêter pour se fondre au grand repos des choses inanimées, récits surprenants, tragiques ou moqueurs, tout ce qu'il avait vu et entendu dire sur les mers et les continents. Il raconta tout cela pour elle, et elle s'étonna sans saisir. Elle l'écouta avec un joli sourire indifférent et s'empressa de retourner à l'autre qui chantait si bien et ne lui parlait pas de choses étranges. Il comprit de suite, retourna à son coin tranquille et, condamné-le, s'adressa au dieu Whisky, qui en a consolé d'autres. Un soir, le comte avait pour son ami aux cheveux dorés exhibé ses plus notables talents. Il avait joué, causé, chanté, bostonné dans les trois salons, tant qu'elle s'était enfin abandonnée sur son épaule ployante, enivrée et douce. Alors Joe Chins, clown, se leva et sortit. Peut-être qu'il avait vu le regard tourné vers l'aimé de ses yeux idolâtres et que cela le rendit fou. Peut-être était-ce la revanche du dieu Whisky. Peut-être enfin qu'il voulut, simple, lui montrer lui aussi ce qu'il savait faire de mieux pour la conquérir. Je ne sais pas, mais quelques minutes plus tard, la porte se rouvrit, et il reparut à la lumière, vêtu de son costume de soie aux fleurs éclatantes, masque plâtré de farine que barrait la grimace amère de la bouche rouge aux coins abaissés. C'était un grand clown, splendide, habile en son métier, et la fièvre d'amour, l'alcool, la colère avaient préparé jusqu'à l'exaspération ses muscles de métal. De sorte que, dès le premier bond, il sentit qu'il allait donner ce soir-là le meilleur de lui-même et offrir en holocauste à la jeune vierge fardée le chef-d'œuvre de sa vie de clown en des cabrioles surhumaines. En quelques instants, il avait tout oublié. Il se souvenait d'une seule chose, c'est qu'il devait montrer à une personne chère la beauté de son art, la grandeur de son amour et la souplesse de son corps, et il commença le tournoyer désespérément. Tout ce que peut exécuter un clown virtuose, honneur de sa profession, il le fit ce soir-là mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Saut périlleux, roue volante, saut du singe et saut du lion, il montra en vérité tout son savoir, et dans ses culbutes ailées, il sembla que les fleurs éclatantes de son habit dansaient, s'ouvraient et jaillissaient dans l'espace en un miracle continu. Il se sentait beau maintenant. Il se rappelait confusément que, à deux époques lointaines, il n'avait été qu'un pauvre homme déçu qui cachait sa douleur. Mais tout était changé, de par la détente merveilleuse de ses membres, et c'était un être de force surprenante et un athlète incomparable qui donnait en spectacle à sa bien-aimée le meilleur de son effort. Il oublia les oripeaux grotesques qui lui couvraient le corps et la farine qui blêmissait sa face contractée. Alors comment pourrait-elle ne pas l'aimer? Il était un grand clown, admirable. Nul ne pouvait l'égaler. Toute la beauté des bêtes était en lui, et il sentait les muscles de ses épaules se gonfler de colère, et ses pieds agiles poser une seconde à terre et l'envoyer de nouveau culbuter en plein rêve. Il n'entendait qu'un bourdonnement continu, large comme un chant de cloche, qui montait en lui et pourtant emplissait l'espace. Et porté sur les ailes du son, il tournoyait une minute sans reprendre haleine, ou bien s'enlevait tout droit après deux bons brefs et tournait ses sauts périlleux à 2 mètres de terre. Il cabriola longtemps, longtemps. Mais voici que soudain le son se tut et il s'arrêta au milieu de son élan pour retomber lourdement à terre. Il perçut 2 personnes qui le regardaient et dans leurs yeux froids et étonnés, il vit non pas ce qu'il s'était cru, mais ce qu'il leur avait montré. Un pitre haletant, agile et grotesque, qui pirouettait dans la lumière. Alors, il gagna la porte en trébuchant, trop triste pour éprouver aucune honte, mais se sentant amèrement pesant et vieux, vieux, ah, vieux.